Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio John Kanyunu. Il est journaliste et correspondant de La Voix de l'Allemagne de Tchouvelé. Au Nord Kivu, bonjour John Kanyunu.
Bonjour Kimate, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Okapi.
Et elle, en ligne depuis Kolwezi, c'est Madame Aimé Magnong, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, REPAF en sigle, et les chefs d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Il n'est pas encore là, elle va nous rejoindre. Et aussi en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaou-Moussoucha, il est journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Bonjour Timothée Tchaou-Moussoucha.
Bonjour Chahi, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Okapi.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue de l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Sous les hauts patronages du magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement de la République, par l'étruchement du ministre d'État, ministre de la Justice, organise du 29 août au 13 novembre 2024 à travers le pays et à Kinshasa, les états généraux de la justice sous le thème « Pourquoi la justice est-elle malade ? Quelle thérapie pour la guérir ?» Dans une dynamique prospective et participative, ces assises se dérouleront en 3 phases. La première phase a eu lieu du 29 août au 2 septembre 2024 à Zongo, au Congo central, consacrée à un atelier des validations de la mise en œuvre de la politique de la réforme de la justice. La deuxième phase, du 19 septembre au 29 octobre 2024, consiste à des consultations populaires à travers la République. La troisième phase, du 6 au 13 novembre 2024, est celle des assises proprement dites des États généraux de la justice au centre financier de Kinshasa. Dans un élan de promouvoir un état de droit, ces assises connaîtront la participation des magistrats, avocats, scientifiques, greffiers, organisations professionnelles de droit de l'homme et de la justice, de la société civile et tant d'autres. États généraux de la justice, seule la justice élève une nation. Ceci est un message du ministère de la Justice.
Nous sommes d'un regard sur la totale de la semaine et je rappelle que cette émission connaît la participation de John Kanyunu. Il est journaliste et correspondant de La Voix de l'Allemagne d'Etuvelé au Nord Kivu. Madame Aimé Magnong, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, REPAF en sigle, elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Et en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaou-Moussoucha, il est journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Au menu de cette émission, accord entre la RDC et le Rwanda sur les activités et les responsabilités contenues dans les plans harmonisés pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, a officiellement lancé vendredi 11 octobre sa campagne en faveur de la révision de la constitution de la RDC et enfin, poursuite de la grève des enseignants du secteur public. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de l'annulation du processus d'appel d'offres des 27 blocs pétroliers par les ministres des hydrocarbures de la RDC. En effet, la décision du ministre des hydrocarbures est contenue dans un communiqué signé vendredi 11 octobre. Parmi les raisons évoquées, l'absence des candidatures, des offres non recevables, des cas de dépôt tardifs, des offres inappropriées et irrégulières, un défaut des concurrences. Ce sont toutes ces raisons qui ont empêché la poursuite de la procédure vers l'attribution des droits des hydrocarbures, tels que les révèlent les rapports des validations de la commission ad hoc mise en place pour l'organisation d'appels d'offres sur l'attribution des droits des hydrocarbures en RDC. Le ministre Molendo Sakombi fait savoir qu'un mécanisme est mis en place pour relancer incessamment la même procédure. John Kanunu, que vous inspire cette décision du ministre des hydrocarbures portant, n'est-ce pas, annulation du processus d'appel d'offres des 27 blocs pétroliers?
Oui, merci Guy Maté. Le ministre a évoqué certaines raisons et je pense que ceux qui sont du domaine comprennent ces raisons-là. Mais dans notre pays, quand on est à un certain portefeuille, souvent il y a des ministres qui veulent voir clair sur certains dossiers. J'espère que ce n'est pas le cas avec le ministre actuel des hydrocarbures, mais par le passé, on a eu à vivre certaines histoires pareilles. Et je pense que peut-être aussi c'est pour l'intérêt général de la population, des Congolais, pour avoir des partenaires fiables et qui puissent venir exploiter ces blocs-là. Et nous espérons que le climat des affaires va pousser certains investisseurs de venir chez nous, parce que ça fait 5-6 ans ou plus que nous sommes à la recherche de ces investisseurs-là, pendant que d'autres pays profitent déjà de cette manne, là, le pétrole. Par exemple, l'Ouganda, d'ici là, ils n'ont pas encore commencé avec l'exploitation, mais ils sont vraiment dans un stade avancé et ce n'est que chez nous que ça bloque. Je pense que le ministre doit vite faire pour faire profiter cette manne au peuple congolais, parce que...
Mais est-ce qu'il suffisait seulement de lancer ces processus d'appel d'offres pour espérer justement attirer les investisseurs dans ce secteur, où il y avait des préalables et que le gouvernement devrait, n'est-ce pas, commencer par accomplir, notamment restaurer la sécurité dans les zones concernées, mais aussi faciliter l'accessibilité à ces zones, comme vous l'avez dit, améliorer les climats des affaires?
Ah oui, tout ça. Est-ce qu'ils ont eu le temps de revoir tout ça ou d'analyser tout cela? Je ne pense pas. Parce que, comme vous venez d'évoquer la situation sécuritaire, vous serez d'accord avec moi que la partie Beni, là, le Graben, il y a les ADF. Si vous allez au niveau du lac Albert, au niveau des Lituri, il y a aussi les miliciens de Codeco qui font rage là-bas. Il y a maintenant la milice Zaïre qui est maintenant active. Et donc, je pense que avec tout ça, c'est vraiment compliqué d'avoir effectivement des investisseurs. Est-ce que c'est à cause de cela que le ministre a avancé ces raisons-là que vous venez de nous donner l'heure condensée? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut tenir compte de ça et tout faire pour ramener la paix dans la partie est du pays, parce que le gros, à mon avis, se trouve là-bas. Je pense que tout ça, ça peut jouer aussi contre nous quand quelqu'un ne peut pas amener son argent dans un pays qui est en guerre avec les risques de perdre son capital.
Merci Timothée Chaumosucha. On se rappelle les pressions qu'exerçaient sur la RDC certaines puissances sur, n'est-ce pas, la nécessité de préserver la forêt congolaise. Et au-delà des raisons évoquées officiellement par les ministres des hydrocarbures, on ne peut pas dire que ces pressions ont aussi pesé sur la décision du ministre.
Oui, à peu près. On peut aussi conclure sur cette voie-là, qu'il fallait annuler lorsque le gouvernement, par le ministre, a constaté que la réglementation en la matière n'a pas été observée, d'une part, et que d'autre part, qu'il faille organiser une sorte de nouvel appel d'offres auquel ces mêmes anciennes sociétés et grands groupes qui ont concouru avant peuvent avoir aussi droit à le faire. Mais en même temps, comme John, que je salue, l'a dit, il faut tenir compte de tous les paramètres lorsque, dans un secteur aussi sensible, on est en train de revoir les signatures signées par un ancien ministre qui lui aussi est encore au gouvernement. Parce que je ne crois pas que les grands groupes sérieux peuvent galvauder des étapes comme ça sans les suivre. Parce que c'est un secteur, comme je l'ai dit tantôt, très, très sensible. Vous savez que dans le monde entier, les guerres se mènent autour de l'énergie et l'énergie pétrolière elle est encore au bout de siècle. Oui, il faut tenir compte de l'environnement et que la RDC, qui est un poumon, l'un du triangle forestier mondial, à savoir l'Amazonie, la forêt de l'Amazonie, la forêt thaïlandaise et la forêt du bassin du Congo. Donc il ne faut pas qu'en exploitant, mais nous ne refusons pas d'exploiter nos matières, parce qu'il faut seulement protéger l'environnement et la forêt, nous pouvons aussi concomitamment exploiter nos matières premières, nos matières énergétiques, mais aussi faire suivre avec un programme du respect de l'environnement par le processus de reboisement. J'ai voulu attirer l'attention sur un second point. Il faut savoir que les contrats pétroliers, les contrats miniers ont toujours fait l'objet de différentes discussions qui prennent énormément de mois, et que lorsque on est en train d'annuler l'appel d'offres dont certaines sociétés, certains grands groupes sont déjà connus, il faut prendre tous les risques pour que les Congolais ne soient pas traduits en justice auprès de l'OMC, Organisation Mondiale du Commerce, ou bien de l'OADA. Mais s'il y a eu violation, je termine par là, s'il y a eu violation par l'ancien ministre des procédures en la matière, ben, il faut aussi l'interpeller au niveau des cours et tribunaux pour qu'il s'explique. Parce que ça ne doit pas être comme ça, quelqu'un violé, je crois qu'il est au ministère des Sports, semble-t-il, quelqu'un violé les règles de passation de marché, et puis, bon, voilà, il a violé, terminé, on passe au nouvel appel d'offres, comme si rien n'était circulé, il n'y a rien eu. Non, il y a eu violation des règles. Et lorsqu'il y a violation des règles, ça signifie sanction.
Timothée, et dans tout ça, n'est-ce pas la RDC qui perd en termes de réputation?
On peut d'une part féliciter le nouveau ministre s'il n'est pas dans la logique où, bon, moi j'ai pas été là lorsque les appels d'offres étaient faits et que moi j'aimerais bien me retrouver, parce que il faut prendre tout ça avec pincette, parce que s'il y a confrontation entre l'ancien et le nouveau ministre, que l'ancien ministre apporte le document pour prouver qu'il était dans les règles, à ce moment-là, les choses, oui, ce sont des cas comme ça qui peuvent être considérés. La RDC peut être considérée comme un pays à problème lorsqu'au moment où le chef de l'État est en train d'assainir les milieux des climats des affaires. Vous voyez l'agence d'harmonisation des contrats qui est dirigée par Freddy Shembo est entrée entre la Chine, New York et l'Europe ici, en train d'inviter les investisseurs. C'est pour qu'on n'ait plus énormément de la paperasse à faire lorsqu'une société veut venir. Adressez-vous à l'agence d'harmonisation des contrats, et là, ces agences s'adressent au ministère sectoriel. Comme ça, on évite la cacophonie et puis le désordre qu'on a observé jusque-là. Donc, oui, d'une part, la RDC peut être considérée comme un pays à désordre, mais d'autre part aussi, il faut saluer que des réformes sont en train d'être faites et que ceci peut être classé dans le cadre d'un ministre vigilant qui dit « nous voulons être sérieux et ce qui a été fait par le passé n'était pas sérieux, j'annule, mais cela n'exclut pas aux sociétés qui ont concouru de se représenter à nouveau. » Voilà.
Merci, on prend une petite pause avec « En amour, il faut toujours un perdant » de Julio Iglesias et on revient juste après.
C'est moi qui fais ce soir le premier pas pour saluer de mon tendre moi. On revient près de toi. Vois, rien qu'un instant je ne vais pas rester. Je prends de tes nouvelles et je m'en vais. Je ne fais que passer. Moi, je te retrouve au milieu de tes fleurs. Chez toi, la vie a toutes les couleurs. J'ai le goût du bonheur. Moi, en noir et blanc, je vois passer les jours. Comme un brouillard qui tourne et retourne, des choses de l'amour. Je sais, un amour il faut toujours en perdant. j'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Blessé, un amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Je t'ai perdu pour tant. Vois, c'est moi qui fais ce soir le premier pas. On ne fait plus semblant pour que moi. On a besoin de toi. Vois, je n'aurais jamais cru qu'un jour viendrait. Auprès de toi, je me retrouverai. Aussi désemparé. Je sais, un amour, il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir. Oh, un amour, il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Je t'ai perdu tout le temps.
C'était un amour, il faut toujours un perdant de Julio Iglesias. Julio Iglesias qui a fêté ses 80 ans récemment. On revient à la tête cette semaine. La RDC et le Rwanda sont parvenus samedi 12 octobre à un accord sur les activités et les responsabilités contenues dans les plans harmonisés pour la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR en sigle, et le désengagement des forces, a rapporté dimanche 13 octobre l'agence angolaise de presse. Cet accord est le résultat de la réunion ministérielle entre les deux pays, facilitée par l'Angola, qui a eu lieu samedi à Luanda, en Angola. Il prévoit aussi la levée des mesures de défense du Rwanda, précise un communiqué de presse du ministre congolais des Affaires étrangères. John Kanunu, vous êtes journaliste et correspondant de La Voix de l'Allemagne, Détuvelé, Nord-Kivu. Vous avez souhaité analyser cette actualité. On vous écoute.
Ah oui, Guy Maté, nous avons tous suivi cette rencontre-là qui a eu lieu à Luanda, en Angola, et avec tous les engagements pris par les deux parties, donc la RDC et le Rwanda. Ce qui est très important dans ces engagements-là, c'est la traque des FDLR. Cette traque-là me semble un peu compliquée, parce que le Rwanda a toujours accusé la RDC d'utiliser les FDLR dans différents affrontements contre le M23. La RDC a toujours accusé le Rwanda de soutenir le M23 ou d'agresser son territoire. Et moi, je pense que sur la praticabilité, c'est vraiment compliqué. Parce que pour traquer les FDLR, il faut savoir les localiser. Est-ce que ils sont localisés dans un espace connu où les deux armées, donc la RDF et les FRDC, vont les attaquer? Et si la RDC a accepté de mener ses opérations, donc la RDC, c'est où se trouvent ces FDLR? Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a la RDC qui persiste, qui demande au Rwanda de retirer ses troupes, mais aussi de ne plus soutenir le M23. Est-ce que le Rwanda va retirer ses troupes si elles sont sur notre sol? C'est une question. Est-ce que ce n'est pas camouflé à un langage, dans un langage là diplomatique, non, les dispositifs sécuritaires, dispositifs de défense? Quels sont ces dispositifs-là? Ce n'est pas aussi clair.
Oui, mais au-delà de toutes ces questions que vous vous posez, hein, au-delà de cette ambiguïté que vous relevez, le fait d'obtenir cet accord en vertu duquel le Rwanda accepte les désengagements des forces, à votre avis, ne constitue-t-elle pas une certaine avancée dans ces processus de règlement pacifique de cette crise?
Moi, je pense que la RDC et le Rwanda sont dans une sorte d'hypocrisie. N'oubliez pas que la diplomatie, c'est aussi l'hypocrisie. Parce que quand ça s'est dit dans la rencontre là de Luanda la fois dernière, il y a au même moment le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui insiste sur le dialogue sincère, le dialogue franc entre le gouvernement congolais et le M23, deuxième version, donc l'actuel M23, parce qu'il y en a maintenant deux, après la neutralisation, entre guillemets, de la version M23 2012-2013, il y a le Rwanda qui insiste à ce qu'il y ait un dialogue entre le gouvernement congolais et le M23, alors que la position de la RDC est connue, pas question au dialogue entre le gouvernement congolais et le M23, mais le Rwanda, qui est partie prenante dans ces dialogues, insiste sur ces points. Si nous retournons en arrière, en 2012, le M23, première version, avait pris la ville de Goma. À l'époque, parce que nous avons couvert ces différentes guerres dans la partie orientale de notre pays, nous avons vu Kabila, le président, l'ancien président de la République démocratique du Congo, s'humilier. Après la chute de Goma, il a fait le déplacement de Kampala, où il a rencontré son homologue Yoweri Kaguta Museveni, qui a fait aussi appel au président Paul Kagame. Ils se sont rencontrés à Kampala à Mounyonyo et pour négocier, discuter le retrait du M23 de la ville de Goma. C'était chose faite, le M23 s'est retiré de Goma. Donc, on peut s'inspirer de l'histoire pour en arriver à une solution actuellement.
Merci Timothée Tchaoumoussoucha. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Vous êtes coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique. C'est un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Vous êtes aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. On est quand même, n'est-ce pas, c'est des questions que John Nkanyunu s'est posées, beaucoup de gens se posent les mêmes questions. On est curieux, n'est-ce pas, de savoir comment chaque parti va s'organiser pour respecter les engagements pris. La RDC par rapport à la neutralisation des FDLR et les Rwanda, et en ce qui concerne les retraits de ces troupes de la RDC. Comment vous entrevoyez cela?
Bon, en mille comme en mots, de telles négociations finissent toujours par avoir une feuille de route. D'une part pour la RDC, qui va non seulement établir sa feuille de route pour la neutralisation de ces forces négatives, de ces FDLR, je vais revenir un petit peu sur ce fameux narratif du Rwanda, mais aussi sur le plan des engagements de forces. Apparemment, jusqu'à présent, il n'y a pas une feuille de route. Il y a ces accords qui sont là entre les gouvernements de Kinshasa et Kigali via la médiation de l'Angola, mais il n'y a pas une feuille de route. Si les opérations militaires de type neutralisation des FDLR, des anciens FDLR, si on ne peut pas dévoiler ces opérations qui relèvent de l'ordre de la défense, mais il y a quand même un plan que l'on peut présenter pour dire, sur les volets politiques, on établit des points focaux, des points de rencontre, des débats de discussion, couloirs de sortie ou des redditions de ce groupe-là. Je me rappelle, dans la grille des programmes de Radio Okapi, il y a toujours une émission qui passe avant Dialogue entre Congolais, la rediffusion de 4h15 ou 5h, Gutahuka. Gutahuka, qui est une émission exclusivement du programme congolais des Radio Okapi, mais dédiée au programme de rapatriement volontaire de tous les Interahamwe, de tous les FDLR. Voilà. Et il y a dans ce programme, il y a des témoignages des anciens FDLR qui sont intégrés au Rwanda. Ils ont fait le retour. Et Radio Okapi, par ses services, vont interviewer ces gens jusqu'au Rwanda. Mais en même temps, il faut faire attention, les Nations Unies mettent la main aussi, avec l'État congolais, les opérations qu'il y a dans le Kivu, aux mêmes FDLR que Kagame est en train de recycler au Rwanda et les renvoyer dans le Kivu. Parce qu'en réalité, et j'ai apprécié énormément ce que John a dit tout à l'heure, l'une des méthodes des États, c'est l'hypocrisie. Parce qu'en réalité, s'il n'y a plus de FDLR, donc ce que je voulais dire, c'est que si Kagame n'a plus des FDLR dans notre pays, ben, il n'a plus de raison de justifier sa présence en RDC. Donc, cette dimension rouge, les gens verts du Rwanda, de toujours vouloir, chaque fois, pas évoquer la question des FDLR, qui est un narratif qui est très accepté au niveau de l'Occident, parce que le gouvernement de Kigali a forgé une opinion publique, a forgé un narratif qui est repris par tous les médias et par l'opinion publique, contrairement à la RDC, hein, le média, il n'y a pas de discipline dans le média, etc., et que c'est tout qui pullule dans tous les sens, de sorte que le gouvernement de Kigali a convaincu l'Occident d'une menace qui serait réelle, alors qu'en réalité, il n'y a vraiment plus de menace. Et un autre élément que le gouvernement congolais devait insister, mais qui ne ressort pas, comment voudriez-vous que le Rwanda parlait toujours des Tutsis congolais, des Hutus congolais et de toutes les ethnies que nous avons, mais que nous ne pouvons qu'être, je veux dire, le gouvernement congolais ne puisse pas évoquer lui aussi le fait qu'il y a des Hutus au Rwanda, qu'il y a des Tutsis au Rwanda qui sont congolais ou qui sont rwandais, et dont le gouvernement rwandais devait organiser le vrai dialogue. Parce qu'en réalité, je termine par là, parce qu'en réalité, c'est quoi la neutralisation de ces FDLR? C'est quoi? C'est les opérations militaires, la RDC va mener, faire une guerre contre les Hutus qui sont des réfugiés dans notre pays? Non, il s'agit que le Rwanda organise un dialogue, un vrai dialogue, avec ceux dont il considère comme une poche de résistance, pour que l'affaire soit résolue chez eux, au Rwanda, ou dans un autre pays. Seulement Kagame a une usine où il est en train de recycler ces gens pour les réarmer et les déverser dans le Kivu, parce que c'est le Kivu qui fait vivre le Rwanda. Et une autre chose, c'est que le gouvernement congolais, en signant le plan de la neutralisation, reconnaît quelque part de façon tacite que les FDLR constituent une menace contre le Rwanda. Or, il n'y a aucun rapport, que ce soit Human Rights Watch, que ce soit les Nations Unies à travers la MONUSCO, que ce soit l'État congolais, où on signale une seule grenade jetée du territoire congolais au Rwanda par les FDLR. Donc c'est un prétexte récurrent qui date depuis Joseph Kabila 18 ans de règne de pouvoir jusqu'à Félix Tshisekedi 5 ans plus 1 an ou 6 ans. Le Rwanda est en paix et l'État congolais a réussi à maîtriser les FDLR qui ne constituent en aucun cas une menace.
Merci.
La seule chose, c'est que Kagame ne voudrait pas en finir avec le Hutu en RDC, c'est Hutu rwandais qui sont en RDC, parce que à ce moment-là, le prétexte d'intervenir en RDC sera totalement vidé. Voilà.
Oui, mais Timothée, vous parlez d'un possible dialogue inter-rwandais. Vous pensez que ce dialogue peut être envisageable avec le régime de Kagame?
Malheureusement, le président Kagame est un vent en guerre qui ne pourra pas organiser un vrai dialogue. Je suis allé partout en Europe ici, dans différents voyages que j'effectue, pour chercher les mémoires de Carla Del Ponte. Vous vous rappelez, c'est la procureure de la Cour pénale internationale sur le Rwanda, à Arusha, en Tanzanie. Cette dame, toutes ses publications ont été interdites de parution. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des rapports sur, d'abord, le fait que le génocide a été aussi organisé par le RPR, Force Patriotique Rwandaise dirigée la rébellion de Paul Kagame, mais d'autres révélations des massacres organisés par le régime de transition duquel était Paul Kagame. Et donc, Kagame ne voudrait pas qu'il y ait de vérité comme ça qui sorte sur la place publique. Vous voyez le procès qu'il est en train de tenter contre Charles Onana en France, dénote sa volonté d'étouffer toute voix discordante. Or, si nous partons au Rwanda avec la formule de « une voix, une personne », les Hutus reviendront aux affaires.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Michel Boibanda, ancien chanteur et compositeur des orchestres Ok Jazz et Bantu de la capitale, est décédé le mercredi 9 octobre à Brazzaville à l'âge de 84 ans. Pour lui rendre hommage, on va écouter une de ses compositions quand il évolue encore dans l'orchestre Ok Jazz. La chanson est intitulée Nasololata Nanzete et on revient juste après.
Kutingai nako solo la na moto oyemite ofungoli mato iyo kusani oyo kando biyo me masambo olobi balobaki solo ya bato ba ko solo la na bato yi oliki kata o bembele oyo kata li loba ya suka o kende na sango holo bila zalaki o kote ngai na ko solo la na moto o ebite o fungoli bato yi o pusani o yo kano di o bema sango o lo bi paro baki Solo ya bato, bako solo la na bato ilo niki kata O pembele oyo kata nilo baya suka O keke na sambo holo vina zaraki Bansepe, kisepe, eiti Kia moto seko landa po adika na te Tekanga ye, tekanga ye, eiti Teka teka, yo se la mokolo na yo Ba sepe, ki sepe, e bape Mia moto seko kontrole, oye batina Soto e konti sombo
Mama, osi o konti na daro yo Yaka dobina Dae da cima Makambo ya kisepe tolembi Kikuba kuba otobaye Bango pena tango ya komemba o Bame makana nenge ya kobendi Bango pena tango ya koloba ho Baro bakana ninge ya chapu Batepe
Naleli ye 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 ho Naleli ye 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 ho Bala muna sola tepe Koli kango ego mama
Lokola lobaka te mama o Basepe banangi likambo ya kotransfere Nani akoyeba likani ya motema ye
Naleli ye 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 ho Naleli ye 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 ho Mama sana tete Koli kambo ebo mama
Malikamba e bomba ma ho
osilo
na de anga zete kamarada zete amotiri zete anzambe ho oko chikolo banyo soyo lingi Soki mo pepe yende te ligani Nyonsa bolo vaki nyonsa bo solo laki Nete pelo kola te kakate ogeo Nase pe batangi likambo ya kolo bananye Nanya koyeba likani ya motema o
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bon. Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la côté de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de l'annulation par les ministres des hydrocarbures de la RDC du processus d'appel d'offres des 27 blocs pétroliers. Nous avons également analysé l'accord entre la RDC et le Rwanda sur les activités et les responsabilités contenues dans les plans harmonisés pour la neutralisation des FDLR et les désengagements des forces. Participe à cette émission John Kanyunu, il est journaliste et il est correspondant de La Voix de l'Allemagne, de Tuvele, au Nord Kivu. Madame Aimée Magnong, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme REPAF en sigle. Elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Et en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaombo Soucha, il est journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, c'est un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. L'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, a officiellement lancé sa campagne en faveur de la révision de la constitution de la RDC vendredi 11 octobre. Dans une circulaire adressée aux différentes instances du parti, le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabuya, a appelé ces dernières à mobiliser leur base en vue d'obtenir un large soutien pour cette réforme. Pour Augustin Kabuya, la constitution de 2026 est désormais dépassée sur plusieurs points et ne répondrait plus aux aspirations du peuple congolais ni aux enjeux de souveraineté auxquels le pays fait face aujourd'hui. Timothée Tchaombo Soucha, vous avez opté pour ce sujet relatif à la révision de la constitution. On vous écoute.
Oui, merci infiniment. J'ai aimé la deuxième partie de l'intervention de l'honorable Kabuya qui a parlé des enjeux de souveraineté, mais je dirais même des enjeux géostratégiques. Donc vous noterez que dans mon intervention, je ne ferai pas une analyse juridique de la révision de la Constitution et ou du changement, parce que je ne suis pas juriste moi-même, que je laisse ce débat à nos compatriotes juristes. Un deuxième élément que j'aimerais évoquer, c'est que les différents changements ou révisions constitutionnelles dans des États africains, des États qui ne sont pas stables, conduisent souvent à des instabilités institutionnelles et même à des guerres civiles, et que donc cette question qui divise déjà la classe politique congolaise attire l'attention à la fois de médias, mais aussi des observateurs. Un troisième élément que j'ai voulu mettre à disposition, c'est que après les débats qu'il y a entre les acteurs politiques partisans ou non, ben, il convient que les experts ou même les observateurs indépendants donnent un point de vue de façon équilibrée, chacun de la manière où il l'entend, afin que les uns et les autres comprennent que c'est un débat qui doit être dépassionné, c'est pour le pays, et que donc il faut qu'il y ait un débat ouvert. Alors, premier élément d'analyse, c'est que la constitution de tous les États est comparée à la vie humaine. C'est-à-dire qu'il y a une naissance, une conception, naissance, la vie grandit, vieillit et meurt. Donc l'inconstitutionnalité de cette constitution, c'est le fait de penser que cette constitution est née pour être ad vitam aeternam. C'est impossible. Autant l'homme peut naître et mourir, un pays peut même naître et mourir, nous avons le Soudan, Soudan du Sud, Somalie, Somaliland, Balkans, tout ce que vous voyez, aucun constitutionnaliste ne peut me dire aujourd'hui qu'une constitution est éternelle. Voilà. Sauf si le pays a une stabilité séculaire. Dans la constitution actuelle, quel est le vrai problème? J'ai senti que l'UDPS voudrait réviser la constitution. Je rappelle à l'opinion que l'UDPS en 2005-2006 avait rejeté le référendum pour l'adoption de cette constitution. Donc si aujourd'hui l'UDPS revient pour la révision, on sait que l'UDPS reste un petit peu, pour cet aspect-là cohérente, qu'elle a rejeté l'adoption de cette constitution, et aujourd'hui au pouvoir, l'UDPS voudrait réviser. Alors, quatrième élément qu'il faut dire aux Congolais, c'est que l'initiative de la révision constitutionnelle est un domaine de concurrence, c'est-à-dire, il est détenu par le président de la République, qui peut initier la révision de la Constitution. Le gouvernement peut aussi, après délibération, proposer la révision de la Constitution. Je parle ici de la révision et non de la, du changement de la Constitution, mais aussi chaque chambre du Parlement, hein, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou le Sénat peut proposer la révision de la Constitution, ou même les Congolais qui peuvent réunir 100 000 signatures qui vont adresser à, aux deux chambres de l'Assemblée, je veux dire de, du Parlement, pour la révision de la Constitution. Donc, ce n'est pas tabou que l'on puisse réviser la Constitution. Mais attention, est-ce qu'il est possible de changer de Constitution? Oui. Mais ici, dans cette Constitution, en vigueur en République démocratique du Congo, c'est seulement le peuple congolais qui peut changer cette Constitution. Par référendum. S'il y a des gens qui veulent saisir le peuple congolais, ils peuvent saisir le peuple congolais, je veux dire les institutions, pour dire nous avons 100 000 signatures, pas pour la révision, mais nous voulons une nouvelle constitution, voici nos raisons. Le chef de l'État ne peut pas changer les constitutions parce que, dans d'autres, sous d'autres cieux, on appelle ça un homme qui met une dynamite sur l'immeuble auquel il est lui-même monté. C'est-à-dire, lorsque vous montez sur un arbre, vous ne pouvez pas couper l'arbre sur lequel vous êtes monté, sinon vous tombez avec cet arbre-là. Le chef de l'État élu, et dont le, il tire sa légitimité de cette constitution, ne peut pas toucher à cette constitution en la changeant sans se référer à la population. C'est une nuance très importante, parce que lui-même est concerné par cette constitution. Donc, la nouvelle constitution qui pourra venir pourra alors être opposable à tout le monde, y compris à lui. Mais l'UDPS, c'est jusqu'à présent, parle de la révision de certaines dispositions. Il s'agit de quelle matière l'UDPS propose réviser la constitution? Jusque-là, c'est pas encore clair, c'est encore dans les débats au niveau de télévision.
Oui, Monsieur Timothée, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, a évoqué certaines matières, notamment la question sur le mandat du chef de l'État et la durée de ce mandat. Les nombres et la durée.
Alors, les nombres et la durée du mandat du chef de l'État se retrouvent dans l'article 220 verrier, donc de mon point de vue, sans être spécialiste en la matière, on ne peut pas, sans que le peuple se soit prononcé par un référendum. Si l'UDPS réussit à réunir 100 000 signatures, mobiliser l'opinion pour montrer que nous devons changer de constitution ou modifier ces dispositions verrouillées, à ce moment-là, ça ne passera pas. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un débat clair, que l'on dise clairement ce qu'on voudrait faire et quelle est la procédure à le faire.
Oui, mais lorsque vous parlez du changement, de la possibilité de changer la constitution, nous avons eu le professeur Bob Kabamba qui a travaillé sur l'actuelle constitution dans une émission du Dialogue Congolais cette semaine, qui a parlé des conséquences, n'est-ce pas, d'une telle démarche. Si on veut changer la constitution, en fait, on ouvre la boîte de Pandore, c'est toutes les institutions qui tombent. Est-ce que vous pensez qu'on peut envisager une telle démarche aujourd'hui?
Je suis intervenu au début pour vous dire que les changements des révisions constitutionnelles et des changements constitutionnels dans les pays de l'Afrique, notamment des pays souvent instables, conduisent souvent à de l'instabilité institutionnelle, parfois à des guerres civiles. Et le professeur Bob Kabamba n'a lu que l'histoire. Hein, c'est des faits évidents que, donc, toucher à des constitutions ou changer carrément de constitution peut conduire à l'instabilité. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il se pose un problème de l'opportunité du changement de la Constitution, de la faisabilité et de l'efficacité du changement de la Constitution. Mais en même temps, quand est-ce que ça sera opportun de changer la Constitution? Il faut que quelqu'un le change un jour. C'est ça le problème. Donc il ne faut pas que ce soit ici une sorte de tour d'ivoire où on ne touchera pas. Il faut qu'on touche à la Constitution un jour. Cette Constitution a vieilli. On peut la changer, mais le mécanisme doit être défini par les institutions de l'État.
Merci, Madame Aimée Anyongo. Est-ce que vous êtes là?
Je suis là.
Bonjour, on n'a pas eu le temps de se saluer parce que la ligne posait problème. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, REPAF en sigle. Vous êtes chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Quelle est votre lecture en ce qui concerne cette démarche de l'IDPS qui consiste, n'est-ce pas, à réclamer la révision de la Constitution?
Merci beaucoup, M. Maté. C'est vraiment une question très complexe. parce que quand on parle de la Constitution, on parle de devenir de la RDC, de l'âme de la RDC. Moi, je pense que la révision n'est pas quelque chose de mal, c'est tout à fait normal qu'on puisse penser, étant donné que les premières mesures qu'on met en place, il y a toujours des failles qu'on peut corriger au fur et à mesure. Mais moi, je pense que ce qui est beaucoup plus important ici, c'est de ne pas parler du changement de la Constitution, comme mon prédécesseur venait de le dire. Et même vous l'avez aussi confirmé qu'on ouvrirait la boîte de Pandore et que serait vraiment difficile à refermer parce que tout va tomber, on va partir sur de nouvelles bases qui ne sont pas tout à fait évidentes pour qu'on puisse arriver, ça serait sacrifier tous les efforts qu'on a consentis jusqu'à ce niveau de la politique de gestion qu'on connaît maintenant, la décentralisation. Alors moi je pense que nos amis de l'UDPS pense qu'il y a des failles, qu'il y a des choses qu'on doit revoir pour améliorer la situation. Mais tout au quotidien, il y a des choses qui sont prescrites dans la Constitution, mais qui ne sont pas prises en compte dans la gestion. Ils passent outre dans leur gestion et la vie continue. Et moi, je pense qu'il y a des choses qu'on doit garder, qui sont comme sacrées, qui sont des articles verrouillés tels que l'article 220, par exemple, et il y en a beaucoup d'autres, qu'il faudrait peut-être préserver pour le bien de tous, et aussi parler spécifiquement des points, des articles qu'on voudrait revoir dans la Constitution. Je prends le cas du Code minier. Le Code minier de 2002 a fait ses effets, mais au fur de temps ou au fur et à mesure qu'on était en train de vivre la mise en application, on a constaté qu'il y avait des failles et qu'il fallait corriger. Il y a des articles qu'on devrait revoir. Et cela dans quel but? Dans le but d'améliorer le social des Congolais, de prendre en compte leurs besoins ultimes, la survie, la situation socio-économique, la santé, l'accès aux opportunités, l'accès aux services de base. Alors, on a revu ce texte-là du Code minier de 2002, on a eu un autre Code minier de 2018 qui a été beaucoup plus amélioré, qui crée de l'emploi aujourd'hui, qui est en train de créer des millionnaires, et même si nous sommes encore en train de travailler dessus pour que ça soit effectif et que ça soit vraiment du réel, mais il y a quand même des avancées sur ce plan avec le code minier. Je voudrais que, à l'état du code minier, que la Constitution soit aussi perçue de cette manière-là. On regarde quels sont les articles qui bloquent le développement des aspects socio-économiques qui vont dans le sens de l'amélioration du social des Congolais. Parce que c'est ce qui préoccupe les Congolais. Moyen et pas parler sur le plan des politiciens. Parce que si ce n'est que pour préserver les intérêts des politiciens, on a déjà un gros problème sur les bras avec ces inégalités dans les traitements salariales et tout ça, et ça crée des frustrations, ça crée des problèmes. Donc moi, revoir la Constitution, à mon avis, c'est pas un problème impossible, mais que d'emblée, on nous dise c'est quoi qu'on veut réviser dans la Constitution. Bien sûr, en tenant compte des articles verrouillés pour permettre l'RDC de prendre plus de 100 millions d'habitants. Il y a beaucoup d'aspirations. Tout le monde pense un jour prendre les commandes de l'RDC pour donner le meilleur de lui-même afin de contribuer au processus de développement de ces grands géants de l'Afrique centrale. Alors, si on doit, je ne soupçonne pas, je n'anticipe pas sur les articles ciblés, mais je voudrais qu'on puisse préserver au moins cet article 220 et tout cela qui touche, par exemple, aux aspects des mandats présidentiels et voir dans quelle mesure. Parce que si ce n'est que moi, je suggérerais qu'on puisse, parmi les articles à revoir, c'est le mandat des députés et que ça soit aussi le mandat avec validité. Donc, on fait une fois le mandat, une fois renouvelable, et on ne revient plus jamais, on passe à autre chose. Plutôt que, comme on le constate, on a des députés qui font de la politique ou de la législature leur carrière. Ils vont, ils reviennent, 50 ans, 70 ans, ils sont là, c'est pas normal.
Merci, John Kanyounou. Depuis que ce débat a commencé, on constate un silence, n'est-ce pas, de la part des alliés de l'UDPS au sein de l'Union Sacrée. Ce silence peut-il être interprété comme une adhésion à cette idée de l'UDPS ou c'est plutôt la manifestation d'un embarras?
Je pense que ce silence-là peut aussi être prix pour une patate chaude. Parce que j'ai comme l'impression que c'est une démarche de l'UDPS. Alors que il y a de cela, prenons donc 8 ans, que le même parti politique UDPS, encore dans l'opposition, s'était opposé à certaines modifications de la même constitution. Et c'est la même constitution qui a permis à l'UDPS aujourd'hui d'accéder au pouvoir. Et je pense que certains Congolais peuvent l'avoir déjà oublié, mais en 2016, quand le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, Vital Kamerhe, s'est élevé, l'UDPS, l'Église catholique aussi et d'autres forces vives, il y a eu mort d'homme. Ça, les gens ne doivent pas l'oublier. Et on ne sait pas, vous avez évoqué l'article des savants qui est verrouillé, et le slogan à l'époque, je suis journaliste, le slogan à l'époque c'était « Touche pas à mon chéri 220 ». Donc l'article 220. Et vous avez dit que c'est l'article aussi visé. Pourquoi est-ce que c'est cet article-là qui est à la base de ce que nous vivons actuellement? Je ne sais pas, peut-être le secrétaire général de l'UDPS va éclairer notre lanterne le moment venu. Mais aussi, je ne suis pas juriste, il se pose tout de même un problème. La Constitution peut-elle être modifiée pendant que nous sommes dans un état de siège? Parce qu'une partie de notre territoire est sous état de siège depuis quelques années maintenant. Est-ce qu'ils vont outrepasser ce contexte-là pour modifier la Constitution? Et qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est cette constitution obsolète aujourd'hui qui bloque, ou c'est l'homme congolais lui-même qui bloque? Il faut se poser beaucoup plus de questions. Je pense qu'à un moment donné, peut-être quand Augustin Kabuya aura le temps d'éclairer notre lanterne, qu'on pourra être édifié sur ce qui est de sa démarche-là. Mais, à mon avis, le président de la République, heureusement le co-débatteur l'a souligné, ne peut pas envisager changer cette constitution ou la modifier. Mais moi, je pense que c'est trop demandé au peuple changer la constitution actuellement, parce qu'il y a la population qui a élu le président de la République à 73, quelque chose pour cent, attend de lui et de son gouvernement autre chose que la modification de la constitution, les changements de la constitution, à mon avis. Je dis bien à mon avis. Hein, parce que il y a la guerre dans l'est du pays. Parce que maintenant, il y a des gens qui sont à Kirumba, qui ne sont pas administrés par le gouvernement congolais, qui attendent la fin de la guerre pour qu'ils reviennent sur leur territoire. Moi, je pense que c'est trop surcharger les chefs de l'État en parlant modification ou changement de la Constitution pendant que lui est focalisé sur la fin de la guerre. Moi, je pense que le secrétaire général de l'UDPS doit voir choisir le contexte et le moment.
Merci. On prend une petite pause avec Nakeina Bidja du docteur Nico Kassanda avec sa guitare hawaïenne et on se retrouve juste après.
Yo motema poko kikosa la nenge wanate na ebisa kia malamu na keina kosonga na keia bija na keita doa na komina buwaki kongo na ya musukru palobi na gai mama ufaluki musika na zalie na kone la lela
Naki Abidjan du docteur Nico Kassanda dans l'orchestre africain Fiesta Sukisa avec sa guitare hawaïenne. Je rappelle que nous avons dans cette émission John Kanunu, les journalistes et les correspondants de la Voix de l'Allemagne d'Etvelé au Nord Kivu, Madame Aimé Magnong, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, REPAP en sigle, et les chefs d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Et en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve, en Belgique, Timothée Tchaombo-Soucha, il est journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quel Afrique. C'est un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Poursuite de la grève des enseignants du secteur public réunis en Assemblée générale samedi 12 octobre à Kinshasa, les enseignants grévistes et membres de la synergie des syndicats de la RDC ont réservé une fin de non-recevoir à l'appel de la Première ministre de reprendre les cours. Ils ont ainsi décidé de poursuivre leur mouvement de grève en attendant la convocation des nouveaux cadres de dialogue social avec les syndicats porteurs des revendications des enseignants. La première ministre, Judith Suminois, a appelé vendredi 11 octobre les enseignants grévistes à faire preuve de patriotisme et à reprendre les cours. Madame Aimé Magnong, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de la poursuite de la grève des enseignants dans le secteur public. On vous écoute.
Oui, Monsieur Maté, j'ai suivi l'appel de Madame la Première Ministre, l'appel au patriotisme lancé aux enseignants pour reprendre le cours. C'est un appel qui est tout à fait normal de sa part. J'apprécie beaucoup cette initiative de demander aux enseignants d'être patriotes afin de reprendre le chemin de l'école. Mais vous savez, il y a un adage qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Cette grève est en train de se radicaliser, surtout dans les secteurs publics. Et il y a des plaintes, il y a des cahiers des charges qui ont été déposés au niveau des différents ministères, aux différents responsables des différents services. Les syndicats des enseignants ont fait des plaidoyers pour que les conditions socio-économiques soient prévues, les conditions de travail des enseignants. Rassurez-vous, Monsieur Maté, on a dit, si on veut détruire un peuple, il faut commencer par le système éducatif. Le secteur de l'éducation, c'est un secteur qui est très sensible et qui est très important dans un pays, parce que c'est le socle et la base de tout développement. Mais ici, chez nous, je constate que la priorité est placée beaucoup plus dans le secteur politique que dans le secteur de l'enseignement. Et ça, c'est un problème qui est très complexe. On peut appeler les enseignants à reprendre le chemin de l'école, mais à quelles conditions? On a parlé de la révision à la hausse, qu'on a ajouté, on a augmenté leur paye. De combien? Parce que la référence que nous avons sur le plan de paiement, des honoraires, des soldes, c'est par rapport aux militaires, on regarde aux magistrats, aux médecins, on regarde aux politiciens, et on voit qu'il y a une très grande différence, un très grand écart entre le traitement de toutes ces catégories de travailleurs de la fonction publique. Mais il faudrait résorber cette inégalité-là qui est assez criante pour mettre les gens à l'aise afin de pouvoir motiver l'enseignant et lui demander l'appeler au patriotisme. Ce n'est pas lui qui doit seulement être patriote, c'est tout le monde qui doit vraiment répondre à cet appel au patriotisme. Donc il faudrait que l'on puisse penser à prendre en compte les plaintes que les enseignants ont formulées. Ils ont demandé à ce qu'on puisse améliorer leurs conditions de travail qui sont très, très médiocres, qu'il n'y a pas une prise en compte, par exemple, des enseignants de nouvelles unités qui ont demandé à être mécanisés, ce qui n'a pas été fait, de nouvelles unités. Leurs droits ne sont pas protégés, ne sont pas défendus. Et certes, on peut parler de la gratuité, on peut parler de toute la politique qu'on met en place, mais ça touche qui? Parce que jusqu'à ce niveau, on est en train de voir que le problème reste entier dans le secteur public. Il faudrait que cet appel au patriotisme puisse toucher tous les secteurs. Pourquoi ne pas revoir certains traitements, par exemple les émoluments des députés? Pourquoi cet écart criant entre Congolais? Qui est patriote et qui ne l'est pas? Et c'est cet enseignant-là qui a donné sa voix à ses députés pour qu'il arrive là où il est en train de siéger et gagner ce qu'il est en train de gagner, les centuples de ce que l'enseignant donne. Or, l'enseignant, c'est lui qui travaille à la base même, je peux utiliser les termes, de confectionner les citoyens qui doivent travailler dans la RDC, qui doivent porter haut le flambeau de la fierté de la RDC.
Merci.
Donc moi, j'ai trouvé ce problème très épineux et cet appel de la Première ministre un peu injuste, je peux dire, à ce niveau, parce qu'il faut qu'il y ait un traitement, parce qu'on a dit les Congolais sont égaux devant la loi. On a dit le slogan dans le nouveau régime, j'ai beaucoup apprécié le président de la République à la prise de pouvoir, il a dit le peuple d'abord. Est-ce que les enseignants ne font pas partie de cette catégorie du peuple d'abord? Mais moi je pense que la correction, ou bien on dit la charité bien ordonnée, commence par soi-même. Qu'on soit d'abord soi-même patriote avant de demander aux autres de l'être. Prêchons par l'exemple, prêchons par le modèle. C'est ici que je voulais que la Première ministre, cette Première ministre d'un pouvoir vraiment que nous avons applaudi en tant que femme, puisse travailler de manière à ce que l'échelle soit renversée et que les choses connaissent un changement radical. Et nous, on aura marqué le temps de notre manière de gérer en tant que femme.
Merci. Timothée Tchaoumboussoucha, la Première ministre compte sur le budget 2025 pour, n'est-ce pas, répondre aux revendications des enseignants. Et elle a dit lors de sa récente sortie médiatique, mais on sait que le projet de ce budget n'est pas encore examiné par les parlements. Et à votre avis, en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il faut sauver l'année scolaire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment?
Malheureusement, je ne sais pas s'il y a une mesure d'urgence qui peut être prise, ou des mesures conservatoires et d'urgence, des mesures provisoires qui peuvent être prises pour que on puisse sauver l'année. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas faire l'année blanche comme ça? Nous partons, je vous donne la fourchette de salaire d'un instituteur primaire en Belgique, c'est entre 1896 euros à 4680 par mois. Alors, demandez aux policiers d'être patriotiques, demandez aux seuls enseignants d'être patriotiques, demandez aux seuls militaires d'être patriotiques. Je ne souhaite pas vraiment à cette dame qui a vécu avec nous en Mons, ici, Madame Soulinois, ne pouvait pas utiliser cela. Vous dites, donnez-moi le temps, je vais parler avec le gouvernement, je vais parler avec les députés. Je parle ici vraiment comme parent, parce que la gratuité de l'enseignement telle qu'a été consacrée par la Constitution, et c'est Joseph Kabila qui l'a introduit, qui a introduit cette disposition de la Constitution, mais il ne l'a pas appliquée. Pourquoi? Je vous donne ici les éléments. Premièrement, Kabila avait vu que l'enseignant n'était pas bien payé, mais que les écoles privées étaient en train de prendre un petit peu le surplus des élèves qui pouvaient être déversés dans le secteur officiel. Ce qui fait que si on organisait depuis longtemps la gratuité de l'enseignement, les enseignants dans le secteur public devaient avoir beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'élèves, vous voyez, au primaire comme au secondaire. Donc la procédure aurait voulu de commencer par énormément de salles de construction et d'autre part augmenter le budget de la paye de l'enseignant pour qu'ensuite on puisse appeler les enfants à venir et à mettre en route la gratuité. On ne peut pas se marier alors qu'on n'a même pas un lit pour laquelle on dort avec sa propre femme, qu'il n'y a pas là où on va cuisiner. Il faut d'abord faire un chez-soi, ensuite aller dans la famille, chercher la femme pour dire « Moi j'ai un chez-moi, j'ai mes parents, j'ai un petit chez-moi pour que ma femme me rejoigne. » Cette image est totalement correcte. Donc, je ne dis pas que la gratuité a échoué, mais il y a beaucoup plus de travail, parce que nous partons de 2 millions à 4 millions d'enfants, voire même 5 millions d'enfants qui arrivent. C'est une bonne chose faite par le président de la République, mais ça ne suit pas la qualité de l'enseignement et le traitement de l'enseignant.
Merci. John Kanounou, on va finir cette émission avec vous. Quelles recommandations vous pouvez formuler à l'endroit aussi bien du gouvernement qu'est des enseignants pour justement sauver cette année scolaire?
Tout en me mettant à la place des enseignants, vraiment je suis d'accord avec eux et je pense que ce n'est pas la première fois qu'il y ait grève dans ce secteur-là, mais les grèves ont toujours été levées après le dialogue entre le gouvernement et les enseignants. Moi, je pense que ce n'est pas le temps aujourd'hui d'être arrogant, ce n'est pas le temps aujourd'hui d'exhiber des biceps. Je pense que le gouvernement, qui doit bien traiter ses enseignants, doit s'humilier, avec toute humilité, parler aux enseignants, leur expliquer ce qui ne va pas, et pourquoi pas avancer d'autres promesses, parce que c'est pas la première grève, comme je l'ai dit tantôt. Donc, si chacun campe à sa position, cette année risque d'être perdue inutilement. Je pense que les enseignants, qui sont dans leurs droits, ils ont raison, mais le gouvernement aussi a le devoir d'expliquer certaines choses, certaines réalités à ses enseignants pour sauver cette année. Je pense que la première ministre, Madame Judith, qui est un parent aussi, je pense qu'elle doit revoir sa stratégie pour soulager ses enseignants qui ne veulent que rentrer, retourner à l'école, enseigner les enfants, qui vont diriger ces pays après les dirigeants actuels.
Merci, on finit cette émission par là. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Aimée Manyong, Monsieur Timothée Tchaombo Soutcha et Monsieur John Okanounou. Merci aussi à Debs Vita qui était à la technique avec la participation de Christian Omombe, DJ Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sevoujangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Okapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Avenir BMBA de Voloko Joker, chanson sortie en 1982 dans l'orchestre Langa Langa Star et on se retrouve le samedi prochain.
Kombe kombe ndeke ya moibie na yo yo ngai kombe na ye koiba yo tokendo mboka baboti bangai
pe yo koma mama ya bana na nga
aleya aleya Kingo mambe ya leya Soki akoseka matame kokota Soki ya seki mino pembe lokola Loso ya kana Mahale ya mama Yebisa papa na mama bakangisa lopangote Oba mile kinzela Ale kaka masolo Moi eko bimaka Butu eko kotaka Tina nini boliko Esale maboye Lelo tolingana Lobito boyana
lea oh oh lea lea oh 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 Naya wali kombe guki na magolo Nukola susa kwe na mayo leala Na mengile ya benga na telefone bamba u Oboli mwa telefone anaboyaka Na tuni bapeti balobelika Ia leka kiawa pata kupe basiti Nini kataki na leli yoyo
Bye-bye.